le médecin de Louis XV et de Madame de Pompadour, l'illustre Quesnay, qui logeait chez elle à Versailles, voit un jour le roi entrer à l'improviste et se trouble. La spirituelle femme de chambre, Madame du Haussay, qui a laissé de si curieux mémoires, lui demanda pourquoi il se déconcertait ainsi. « Madame, répondit-il, quand je vois les rois, je me dis, voilà un homme qui veut me faire couper la tête. »« Oh, dit-elle, le roi est trop bon. » La femme de chambre résumait là d'un seul mot les garanties de la monarchie. Le roi était trop bon pour faire couper la tête à un homme. Cela n'était plus dans les mœurs. Mais il pouvait d'un mot le faire mettre à la Bastille et l'y oublier. Reste à savoir lequel vaut mieux, de périr d'un coup ou de mourir lentement en 30 ou 40 années. Il y avait en France une 20aine de Bastilles, dont 6 seulement, en 1775, contenaient 300 prisonniers. À Paris, en 79, il y avait une 30aine de prisons où l'on pouvait être enfermé sans jugement. Une infinité de couvents servaient de supplément à ces Bastilles. Toutes ces prisons d'État, vers la fin de Louis XIV, furent, comme était tout le reste, gouvernées par les jésuites. Elles furent, dans leurs mains, des instruments de supplice pour les protestants et les jansénistes, des antres à conversion. Un secret plus profond que celui des plombs, des puits de Venise. L'oubli de la tombe enveloppait tout. Les jésuites étaient confesseurs de la Bastille et de bien d'autres prisons. Les prisonniers morts étaient enterrés sous de faux noms à l'église des jésuites. Tous les moyens de terreur étaient dans leurs mains. Ces cachots surtout dont l'on sortait parfois l'oreille ou le nez mangé par les rats. Non seulement la terreur, mais la flatterie aussi. L'une et l'autre si puissantes sur les pauvres prisonnières. L'aumônier, pour rendre la grâce plus efficace, employait jusqu'à la cuisine. Affamé, nourrissait bien, gâté par des friandises, celles qui cédaient ou résistaient. On cite telle prison d'État, où les geôliers et les jésuites alternaient près des prisonnières et en avaient des enfants. Une aima mieux s'étrangler. Le lieutenant de police allait de temps à autre déjeuner à la Bastille. Cela comptait pour visite, surveillance du magistrat. Ce magistrat ne savait rien, et c'était pourtant lui seul qui instruisait le ministre. Une famille, une dynastie, Châteauneuf et son fils Lavrière et son petit-fils Saint-Florentin, mort en 1777, eurent pendant un siècle le département des prisons d'État et des lettres de cachet. Pour que cette dynastie subsistât, il fallait des prisonniers. Quand les protestants sortirent, on suppléa par des jansénistes, puis on prit des gens de lettres, des philosophes, les Voltaire, les Fréré, les Diderot. Le ministre généreusement donnait des lettres de cachet en blanc aux intendants, aux évêques, aux gens en place. À lui seul, Saint-Florentin en donna 50 000. Jamais on ne fut plus prodigue du plus cher trésor de l'homme, de la liberté. Ces lettres de cachet étaient l'objet d'un profitable trafic. On en vendait aux pères qui voulaient enfermer leurs fils. On en donnait aux jolies femmes trop gênées par leurs maris. Cette dernière cause de réclusion était une des plus ordinaires. Et tout cela par bonté. Le roi était trop bon pour refuser une lettre de cachet à un grand seigneur. L'intendant était trop aimable pour n'en pas accorder à la prière d'une dame. Les commis du ministère, les maîtresses des commis, les amis de ces maîtresses, par obligeance, par égard, simple politesse, obtenaient, donnaient, prêtaient ces ordres terribles par lesquels on était enterré vivant. Enterré. Car telle était la curie, la légèreté de ses employés aimables, nobles presque tous, gens de société. Tous occupés de plaisir que l'on n'avait plus le temps, le pauvre diable, une fois enfermé, de songer à son affaire. Ainsi, le gouvernement de la grâce, avec tous ses avantages, descendant du roi au dernier commis du bureau, disposait, selon le caprice et l'inspiration légère, de la liberté, de la vie. Comprenons bien ce système. Pourquoi tel réussit-il ? Qu'a-t-il fait pour que tout lui succède ? Il a la grâce de Dieu, il a la bonne grâce du roi. Celui qui est en disgrâce, dans ce monde de la grâce, qu'il sorte du monde, banni, damné et maudit. La Bastille, la lettre de cachet, c'est l'excommunication du roi. L'excommunié mourra-t-il ? Non, il faudrait une décision du roi, une résolution pénible à prendre, dont souffrirait le roi même. Entre lui et sa conscience, ce serait un jugement. Dispensons-le de juger et de tuer. Il y a un milieu entre la vie et la mort, une vie morte, enterrée. Organisons un monde exprès pour l'oubli. Mettons le mensonge aux portes, au dehors et en dedans, pour que la vie et la mort restent toujours incertaines. Le mort vivant ne sait plus rien des siens ni de ses amis. Mais ma femme ? Ta femme est morte. Je me trompe. Remariée. Et mes amis vivent-ils ? Ont-ils souvenir de moi ? Tes amis errent à d'auteurs. Ce sont eux qui t'ont trahi. Ainsi, l'âme du misérable livrée à l'ange féroce est nourrie de dérision, de vipères et de mensonges. Oubliez, mot terrible, qu'une âme est périe dans les âmes. Celui que Dieu fit pour la vie, n'avait-il pas donc le droit de vivre au moins dans la pensée? Qui osera sur cette terre donner même au plus coupable cette mort par-delà toute mort, le tuer dans le souvenir? Mais non, ne le croyez pas. Rien n'est oublié, nul homme, nulle chose. Ce qui a été une fois ne peut s'anéantir ainsi. Les murs même n'oublieront pas. Le pavé sera complice, transmettra des sons, des bruits. L'air n'oubliera pas. De cette petite lucarne où coud une pauvre fille, à la porte Saint-Antoine, on a vu, on a compris. Que dis-je? La Bastille sera touchée elle-même. Ce rude porte-clés est encore un homme. Je vois inscrit sur les murs l'hymne d'un prisonnier à la gloire d'un geôlier, son bienfaiteur. Pauvre bienfait. Une chemise qu'il donna à ce Lazare, barbarement abandonnée, mangeait des vers dans son tombeau. Pendant que j'écris ces lignes, une montagne, une Bastille a pesé sur ma poitrine. Hélas! Pourquoi m'arrêter si longtemps sur les prisons démolies, sur les infortunés que la mort a délivrés? Le monde est couvert de prisons. Du Spitzberg à la Sibérie, de Spandau au Mont-Saint-Michel, le monde est une prison. Vaste silence du globe, bas gémissement, humble soupir de la terre muette encore, je ne vous entends que trop. L'esprit captif qui se tait dans les espèces inférieures, qui rêve dans le monde barbare de l'Afrique et de l'Asie, il pense, il souffre en notre Europe. Où parle-t-il, sinon en France, malgré les entraves? C'est encore ici que le génie muet de la terre trouve une voix, un organe. Le monde pense, la France parle. Et c'est justement pour cela que la Bastille de France, la Bastille de Paris, j'aimerais mieux dire la prison de la pensée, fut, entre toutes les Bastilles, exécrable, infâme et maudite. Dès le dernier siècle, Paris était déjà la voix du globe, la planète parlée par trois hommes, Voltaire, Jean-Jacques et Montesquieu. Que les interprètes du monde visent toujours pendus sur leur tête l'indigne menace. Que les trois tissus par où la douleur du genre humain pouvait exhaler ses soupirs, on essaya de la fermer. Nos pères l'écrasèrent, cette Bastille, en arrachèrent les pierres de leurs mains sanglantes, les jetèrent au loin. Et ensuite, ils les reprirent, et le fer leur donna une autre forme, et pour qu'à jamais elles fussent foulées sous les pieds du peuple, ils en bâtirent le pont de la Révolution. Toutes les prisons s'étaient adoucies, celles-ci s'étaient endurcies. De règne en règne, on diminuait ce que les geôliers appelaient pour rire les libertés de la Bastille. Peu à peu, on mouchait les fenêtres, l'on ajoutait des grilles. Sous Louis XVI, on supprima le jardin et la promenade des tours. Deux choses vers cette époque ajoutèrent à l'irritation. Les mémoires de Linguet qui firent connaître l'ignoble et féroce intérieur. Et ce qui fut plus décisif, l'affaire de Latude, non écrite, non imprimée, circulant mystérieusement et passant de bouche en bouche, l'effet n'en fut que plus terrible. Pour moi, je dois avouer l'effet profond, cruel que me firent les lettres du prisonnier. Ennemi déclaré des fictions barbares sur l'éternité des peines, je me suis surpris à demander à Dieu un enfer pour les tyrans. Ah, monsieur de Sartine, ah, madame de Pompadour, quel poids vous traînez! Comme on voit par cette histoire comment, une fois dans la justice, on s'en va de mal en pis. Comme la terreur qui pèse du tyran à l'esclave retourne plus terrible au tyran. Ayant une fois tenu celui-ci prisonnier sans jugement pour une faute légère, il faut que la Pompadour, que Sartine, le tienne toujours. Qu'il scelle sur lui d'une pierre éternelle l'enfer du silence. Et cela ne se peut pas. Cette pierre se soulève toujours. Toujours monte une voix basse, terrible, un souffle de feu. Dès 81, Sartine en ressent l'atteinte. 84, le roi même en est blessé. 89, le peuple sait tout, voit tout, l'échelle même par où s'enfuit le prisonnier. 93, on guillotine la famille de Sartine. Pour le malheur des tyrans, il se trouva qu'ils avaient enfermé en ce prisonnier un homme ardent et terrible, que rien ne pouvait dompter, dont la voix ébranlait les murs, dont l'esprit, l'audace, était invincible. Corps de fer, indestructible, qui devait user toutes les prisons, et la Bastille, et Vincennes, et Charenton, enfin l'horreur de Bicêtre où tout autre aurait péri. Ce qui rend l'accusation lourde, accablante, sans appel, c'est que cet homme, tel quel, échappé deux fois, se livra deux fois lui-même. Une fois, de sa retraite, il écrit à madame de Pompadour, et elle le fait reprendre. La seconde fois, il va à Versailles, veut parler au roi, arrive à son antichambre, et elle le fait reprendre. Quoi? L'appartement du roi n'est donc pas un lieu sacré? Je suis malheureusement obligé de dire que, dans cette société molle, faible, caduque, Il y eut force philanthropes, ministres, magistrats, grands seigneurs pour pleurer sur l'aventure. Pas un ne fit rien. Malesherbes pleura, et de Gourgues, et Lamoignon, et Rohan, tous pleuraient à chaudes larmes. Il était sur son fumier à Bicêtre, mangeait des poux à la lettre, logé sous terre et souvent hurlant de faim. Il avait encore adressé un mémoire à je ne sais quel philanthrope par un porte-clés ivre. Celui-ci heureusement le perd, une femme le ramasse. Elle le lit, elle frémit, elle ne pleure pas celle-ci, mais elle agit à l'instant. Madame Legros était une pauvre petite mercière qui vivait de son travail en cousant dans sa boutique. Son mari, coureur de cachet, répétiteur de latin. Elle ne craignit pas de s'embarquer dans cette terrible affaire. Elle vit, avec un ferme bon sens, ce que les autres ne voyaient pas, ou bien voulaient ne pas voir. Que le malheureux n'était pas folle, mais victime d'une nécessité affreuse de ce gouvernement, obligé de cacher, de continuer la famille de ses vieilles fautes. Elle le vit, et elle ne fut point découragée et effrayée. Nul héroïsme plus complet. Elle eut l'audace d'entreprendre, la force de persévérer, l'obstination du sacrifice de chaque jour et de chaque heure, le courage de mépriser les menaces, la sagacité et toutes les saintes ruses pour écarter, déjouer les calomnies des tyrans. 3 ans de suite, elle suivit son but avec une opiniâtreté inouïe dans le bien, mettant à poursuivre le droit, la justice, cette âpreté singulière du chasseur ou du joueur, que nous ne mettons guère que dans nos mauvaises passions. Tous les malheurs sur la route, et elle ne lâche pas prise. Son père meurt, sa mère meurt. Elle perd son petit commerce, elle est blâmée de ses parents, vilainement soupçonnée. On lui demande si elle est la maîtresse de ce prisonnier auquel elle s'intéresse tant. La maîtresse de cette ombre, de ce cadavre, dévoré par la gale et la vermine. La tentation des tentations, le sommet et la pointe aiguë du calvaire, ce sont les plaintes, les injustices, les défiances de celui pour qui elle s'use et se sacrifie. Grand spectacle de voir cette femme pauvre, mal vêtue, qui s'en va de porte en porte, faisant la cour aux valets pour entrer dans les hôtels, plaider sa cause devant les grands, leur demander leur appui. La police frémit, s'indigne. Madame Legros peut être enlevée d'un moment à l'autre, enfermée, perdue pour toujours. Tout le monde l'en avertit. Le lieutenant de police la fait venir, la menace. Il la trouve immuable, ferme. C'est elle qui le fait trembler. Par bonheur, on lui ménage l'appui de Madame Duchesne, femme de chambre de mesdames. Elle part pour Versailles, à pied, en plein hiver. Elle était grosse de 7 mois. La protectrice est absente. Elle court après, gagne une entorse, et elle n'en court pas moins. Madame Duchesne pleure beaucoup, mais hélas, que peut-elle faire? Une femme de chambre contre 2 ou 3 ministres, la partie est forte. Elle tenait en main la supplique. Un abbé de cour qui se trouve là, la lui arrache des mains, lui dit qu'il s'agit d'un enragé, d'un misérable, qu'il ne faut pas s'en mêler. Il suffit d'un mot pareil pour glacer Marie-Antoinette à qui l'on en avait parlé. Elle avait la larme à l'œil, on plaisanta, tout fini. Il n'y avait guère en France d'homme meilleur que le roi. On finit par aller à lui. Le cardinal de Rohan, un polisson mais après tout charitable, parla 3 fois à Louis XVI, qui par 3 fois refusa. Louis XVI était trop bon pour ne pas en croire Monsieur de Sartine. Il n'était plus en place, mais ce n'était pas une raison pour le déshonorer, le livrer à ses ennemis. Sartine à part, il faut le dire, Louis XVI aimait la Bastille. Il ne voulait pas lui faire tort, la perdre de réputation. Le roi était très humain. Il avait supprimé les bas cachots du Châtelet, supprimé Vincennes, créé la force pour y mettre les prisonniers pour dette, les séparer des voleurs. Mais la Bastille, c'était un vieux serviteur que ne pouvait maltraiter à la légère la vieille monarchie. C'était un mystère de terreur. C'était, comme dit Tacite, instrumentum regni. Quand le comte d'Artois et la reine voulant faire jouer Figaro le lui lurent, il dit seulement, comme objection sans réponse, « Il faudrait donc alors que l'on supprimât la Bastille ?» Quand la révolution du Paris eut lieu en juillet 89, le roi, assez insouciant, parut prendre son parti. Mais quand on lui dit que la municipalité parisienne avait ordonné la démolition de la Bastille, ce fut pour lui comme un coup à la poitrine. « Ah » dit-il, « voici qui est fort !» Il ne pouvait pas bien recevoir en 1781 une requête qui compromettait la Bastille. Il repoussa celle que Rohan lui présentait pour l'étude. Des femmes de haut rang assistèrent. Il fit alors consciencieusement une étude de l'affaire, lut tous les papiers. Il n'y en avait guère d'autres que ceux de la police, ceux des gens intéressés à garder la victime en prison jusqu'à la mort. Il répondit définitivement que c'était un homme dangereux, qu'il ne pouvait lui rendre la liberté jamais. Jamais. Tout autre en fut resté là. Eh bien, ce qui ne se fait pas par le roi, se fera malgré le roi. Madame Legros persiste. Elle est accueillie des Condés, toujours mécontents et grondeurs. Accueillie du jeune duc d'Orléans, de sa sensible épouse. La fille du bon Penthièvre, accueillie des philosophes de monsieur le marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de Dupaty, de Villette, quasi-gendre de Voltaire, etc., etc. L'opinion va grondant, le flot va montant. Necker avait chassé Sartine. Son ami et successeur, le Noir, était tombé à son tour. La persévérance sera couronnée tout à l'heure. Latude s'obstine à vivre, et Madame Legros s'obstine à délivrer Latude. L'homme de la reine, Breteuil, arrive en 83, qui voudrait la faire adorer. Il permet à l'Académie de donner le prix de vertu à Madame Legros, de la couronner, à la condition singulière qu'on ne motive pas la couronne. Puis, 1784, on arrache à Louis XVI la délivrance de Latude. Et quelques semaines après, étrange et bizarre ordonnance qui prescrit aux intendants de n'enfermer plus personne, à la requête des familles, que sur raison bien motivée, d'indiquer le temps précis de la détention demandée, etc. C'est-à-dire qu'on dévoilait la profondeur du monstrueux abîme d'arbitraire où l'on avait tenu la France. Elle en savait déjà beaucoup, mais le gouvernement en avouait davantage. Du prêtre au roi, de l'Inquisition à la Bastille, le chemin est direct mais long. Sainte, sainte révolution que vous tardez à venir. Moi qui vous attendais depuis 1000 ans sur le sillon du Moyen-Âge, quoi, je vous attends encore? Oh, que le temps va lentement! Oh, que j'ai compté les heures! Arriverez-vous jamais? Tous finissaient par n'y plus croire. Tous avaient prévu la révolution au milieu du siècle. Personne à la fin n'y croyait. Loin du Mont-Blanc, on le voit. Au pied, on ne le voit plus. Ah, c'est fini, dit Mably en 1784. Nous sommes tombés trop bas. Les mœurs sont devenues trop faibles. Jamais, au plus jamais, ne viendra la révolution. Homme de peu de foi, ne voyez-vous pas que tant qu'elle restait parmi vous, philosophe, parleur, sophiste, elle ne pouvait rien faire? Grâce à Dieu, la voilà partout dans le peuple et dans les femmes. En voici une, qui par sa volonté persévérante, indomptable, ouvre les prisons d'État. D'avance, elle a pris la Bastille. Le jour où la liberté, la raison sort des raisonnements et descend à la nature, au cœur, et le cœur du cœur c'est la femme, tout est fini. Tout l'artificiel est détruit. Ô Rousseau, nous te comprenons, tu avais bien raison de dire « revenez à la nature ». Une femme se bat à la Bastille. Les femmes font le 5 octobre. Dès février 89, je lis avec attendrissement la courageuse lettre des femmes et filles d'Angers. Lecture faite des arrêtés de messieurs de la jeunesse, déclarons que nous nous joindrons à la nation, nous réservant de prendre soin des bagages, provisions, des consolations et services qui peuvent dépendre de nous. Nous paierons plutôt que d'abandonner nos époux, amants, fils et frères. Ô France, vous êtes sauvée. Ô monde, vous êtes sauvée. Je revois au ciel ma jeune lueur où j'espérais si longtemps, la lumière de Jeanne d'Arc. Que m'importe que de fille elle soit devenue un jeune homme, Hoche, Marceau, Joubert ou Kléber. Grande époque, moment sublime, où les plus guerriers des hommes sont pourtant les hommes de paix, où le droit, si longtemps pleuré, se retrouve à la fin des temps, où la grâce, au nom de laquelle la tyrannie nous écrasa, se retrouve concordante, identique à la justice. Qu'est-ce que l'ancien régime, le roi, le prêtre dans la vieille monarchie? La tyrannie au nom de la grâce. Qu'est-ce que la révolution? La réaction de l'équité, l'avènement tardif de la justice éternelle. Justice, ma mère, droit, mon père, qui ne faites qu'un avec Dieu. Car de qui me réclamerais-je, moi, un de la foule, un de ceux qui naquirent 10 millions d'hommes et qui ne seraient jamais nés sans notre révolution? Pardonnez-moi, ô justice, je vous ai cru austère et dur, et je n'ai pas vu plus tôt que vous étiez la même chose que l'amour et que la grâce. Et voilà pourquoi j'ai été faible pour le Moyen-Âge, qui répétait ce mot d'amour sans faire les œuvres de l'amour. Aujourd'hui, rentré en moi-même, le cœur plus brûlant que jamais, je te fais amende honorable, belle justice de Dieu. C'est toi qui es vraiment l'amour, tu es identique à la grâce. Et comme tu es la justice, tu me soutiendras dans ce livre où mon cœur me frayait la route. Jamais mon intérêt propre n'y a aucune pensée d'ici-bas. Tu seras juste envers moi et je le serai envers tous. Pour qui donc ai-je écrit ceci, si ce n'est pour toi, justice éternelle ? 31 janvier 1847.